J'arrive à temps pour écouter l'agité du local et tu vas être content, j'ai désherbé toute la plate-bande.
Tu veux dire là où mes petits pois commençaient à lever ?
Oups.
Bienvenue, amis auditeuristes, dans cette dernière agitée du local de la semaine. Aujourd'hui, pas de grand entretien. L'émission s'adapte car, vous le savez bien, cette semaine, nous tendons notre micro aux représentants des différentes listes candidates pour les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Aujourd'hui, à mon micro, ça sera Virginie Joron, actuelle eurodéputée et de nouveau candidate sur la liste Identité et démocratie menée par Jordan Bardella. Ensuite, comme chaque jour, vous l'avez remarqué, la Maison de l'Europe nous livre une capsule pour nous aider à mieux comprendre les valeurs, les missions et l'impact de l'Europe et de son Parlement sur notre quotidien. Une manière de nous rappeler pourquoi est-ce qu'il est important, voire essentiel, d'aller voter dans 2 semaines maintenant. Nous écouterons, seconde partie d'émission, Michel Ferron, ancien président de la Maison de l'Europe en Mayenne et secrétaire général de la Fédération nationale des Maisons de l'Europe, nous donner son avis sur la question d'une Europe de la défense. Comme chaque vendredi, on ne change bien sûr pas totalement la formule, on se plonge ensemble dans l'agenda culturel de la semaine. Restez jusqu'au bout, puisqu'autant vous le dire, ça y est, ça commence à bouger un peu partout, le soleil se fait attendre, mais les festivals démarrent. Mais avant ça, je vous le disais, on commence bien sûr avec l'entretien du jour. Les élections européennes auront lieu le 9 juin et à cette occasion, Radio Fidélité et l'autre radio s'associent pour aller à la rencontre des différents représentants de chacune de ces listes nationales. À mon micro aujourd'hui, Virginie Joron, vous êtes actuellement députée au Parlement européen et de nouveau présente sur la liste candidate Identité et démocratie menée par Jordan Bardella. J'ai envie de vous demander, pour commencer, après ce mandat, quelles sont les priorités de votre parti pour les 5 prochaines années ?
D'abord, avant de parler de priorité, on va parler de bilan, hein, parce que c'est important. Moi, j'étais d'abord députée pendant 5 ans, donc au sein de la commission marché intérieur et commission Covid, dans lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et moi, ce que j'ai constaté dans ces 5 années de mandat, c'est que tout ce qui relevait de la notion de protection, par exemple, des emplois locaux, le localisme, les circuits courts, la priorité pour nos emplois, la priorité nationale, c'était pas évoqué dans nos dossiers. Donc ce qu'on souhaite pour ces 5 prochaines années, bon, évidemment, d'avoir un groupe plus important pour que toutes ces idées puissent enfin passer, puisque vous savez, nous n'avons pas l'initiative comme l'Assemblée nationale, c'est la commission qui propose les lois et nous l'amendons, nous l'aménageons et nous discutons sur le texte. Donc la priorité, c'est effectivement selon les commissions, hein, donc moi si je reste dans la commission marché intérieur, et c'est ce que je souhaite, c'est la protection du pouvoir d'achat des consommateurs, la protection effectivement aussi de l'industrie et surtout des PME-TPE qui sont vraiment envahies de normes qui aujourd'hui les étouffent.
Une des grandes préoccupations des Français également, c'est le changement climatique. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et quels sont vos engagements ?
Alors, durant ces 5 années aussi, nous avons soutenu tout ce qui était de bon sens, l'écologie de bon sens et l'écologie qui n'est pas punitive. Je vous donne un exemple. J'ai soutenu tout ce qui était relatif à l'économie circulaire. Comme je vous l'ai dit, le réemploi est important parce que ça offre des emplois locaux. J'ai aussi soutenu le dossier du packaging, puisqu'effectivement, le tout plastique est un problème. Donc, ça a du bon sens, mais aussi, rappelez-vous si vous en souvenez, il y avait une petite polémique autour des cagettes en bois, les camemberts, où effectivement Bruxelles, complètement déconnectée de la réalité, voulait supprimer un élément qui est pourtant, pour le coup, le bois est tout à fait recyclable. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, on est pour une écologie de bon sens. Donc, à partir de là, on va continuer dans ce sens, parce qu'effectivement, c'est un objectif commun pour nos enfants à l'avenir. Mais j'ai envie de dire, on en fait beaucoup trop. La France est très bien classée en termes d'émissions de CO2. C'est pas la France qui pollue le plus en Europe et encore moins dans le monde. Donc il faut trouver cet équilibre entre le bon sens et amener effectivement à une modification de nos manières de vivre. On a aussi soutenu le rapport qui met en place le chargeur universel, parce qu'effectivement il y a une pollution des câbles électriques et on l'a soutenu. Alors là aussi, hein, j'ouvre la parenthèse, je vois que les macronistes se targuent d'avoir soutenu ce rapport. C'est un sujet qui traîne dans les couloirs de Bruxelles depuis 15 ans, hein, donc il n'est pas nouveau, c'est pas à eux de s'attribuer le bénéfice de ces travaux, d'autant plus que sur ce rapport, moi je l'avais en commission marché intérieur et il n'y avait pas du tout de Français sur ce sujet-là qui pour le soutenir, concrètement, comme je vous l'ai dit, par voie d'amendement.
Donc par rapport aux derniers rapports du GIEC qui ont été particulièrement alarmants, pour vous, les mesures doivent passer donc principalement par ces mesures. Vous ne remettez pas en question un système de production plus global ?
Alors pas du tout, comme je vous l'ai dit, du bon sens. Un autre exemple de bon sens. Moi, je veux bien. On nous parle de l'Union européenne qui fait du bien et qui a mis en place ce pacte vert. Mais alors, pourquoi en même temps mettre en place des traités internationaux pour faire venir par cargo qui pollue énormément de la viande ovine ou du vin de Nouvelle-Zélande ? Donc, il n'y a pas de cohérence. Idem pour les voitures à moteur électrique. Pareil, on fait venir de plus en plus des voitures de Chine. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, de nos voitures aujourd'hui, parce que nous avons un parc automobile? Ça veut dire que si on change demain de parc automobile, qu'est-ce qu'on va faire de ces anciennes voitures? Elles vont partir en Afrique. Donc ce n'est pas... Vous voyez, j'en l'entends, on est très conscient sur ces objectifs. Et effectivement, il y a une démographie qui fait qu'il y a, à terme, il y aura des problèmes de climat. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a un dérèglement. Donc on ne remet pas en question cela. On remet en question cette écologie punitive qui n'est pas de bon sens. Je vous ai donné quelques exemples avec voilà, les accords de traités internationaux qui fait venir des produits que nous avons ici. Le tout plastique, je vous l'ai dit, on l'a soutenu, mais effectivement, les cagettes en bois, ce n'est pas du tout plastique, donc il faut rester cohérent. Et puis un accompagnement aussi, puisque quand moi j'ai défendu le dossier, comme je vous l'ai dit, notre boussole, c'est la protection du pouvoir d'achat. Moi, je veux bien qu'on enlève le plastique. On peut bien le remplacer par des nouveaux matériaux qui sont en train de mettre en place. Mais ça ne doit pas engendrer un coût final pour le consommateur.
Sur une autre thématique, comment vous envisagez la position de l'Europe sur la scène internationale, notamment avec les conflits que nous connaissons aujourd'hui ?
Je pense que l'Europe devrait être comme la Suisse. Elle devrait être neutre. Et je vais à un autre point, et ça fait partie aussi des éléments que je vais développer. L'Europe n'a pas vocation, l'Union européenne, pardon, à avoir les dorures d'un diplomate. Ce n'est pas une ambassade. Elle doit rester neutre. Effectivement, ses positions, d'ailleurs, concrètement, aujourd'hui, elle ne prend position que par voie de résolution, qui ont que des valeurs symboliques. C'est bien d'un côté, mais ça nous donne aussi des fois certaines postures qui sont, pour nous, quand on se met du côté de la France, peut nous mettre à mal par rapport à des actions bilatérales entre différents États. Donc je trouve que l'Union européenne devrait se contenter, comme à son origine, de réguler le marché commun, et c'est tout.
Pour parler maintenant plus économie, quels sont vos plans pour soutenir l'économie européenne, en particulier dans les secteurs les plus touchés par la crise actuellement ?
Alors déjà, définir la crise actuelle, quel secteur ? Effectivement, les agriculteurs, effectivement, on a bien vu cette crainte qu'ils ont par rapport à la mise en place du pacte. Donc, et on les entend bien parce qu'effectivement, on va leur demander de réduire leur terre agricole. On va leur demander de réduire leur cheptel, ce qui veut dire réduction, même s'il y a une compensation. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Moi, je les ai vus, les agriculteurs, ils ne veulent pas être subventionnés par l'Union européenne. Ils veulent vivre de leur terre, ils veulent vivre de leurs élevages, ils veulent vivre de leur récolte. Donc on met en fait, si vous voulez, beaucoup de secteurs sous oxygène. Et c'est l'Union européenne qui dégage un peu ou pas d'oxygène. Et ça, ils ne veulent pas. Donc ça, il faut absolument ce secteur retrouve sa pleine capacité à produire. Et effectivement, ceux qui souhaitent continuer à faire du bio, ceux qui veulent continuer à mettre en place un système beaucoup plus propre, j'ai envie de dire, eh bien, il faut les soutenir par voie de subvention. Puis les autres, ceux qui ont, je veux dire, les secteurs traditionnels, eh bien, il faut les laisser s'épanouir parce qu'effectivement, il y a une concurrence déloyale très dure, que ce soit même au niveau de l'Union européenne. Hein. On l'a bien vu, les produits qui viennent de Hongrie ou de Roumanie n'ont pas le même coût de l'emploi. Donc ça, c'est une difficulté. Donc il faut qu'on soutienne notre agriculture, il faut qu'on soutienne notre industrie. On l'a vu pendant la crise Covid. Tout le monde parlait à la télé de relocalisation. Moi, je n'ai pas vu dans un seul rapport tous les amendements que j'ai défendus à ce sujet. Ils ont tous été refusés par la majorité aujourd'hui présidentielle. c'est du bon sens. Priorité à nos pour nos marchés publics de nos produits locaux. En plus, comme je vous l'ai dit, ça répond à la demande écologique. Tout ce qui concerne, on va dire, le secteur automobile, lui aussi va être impacté avec cette mesure de contraignante de tout passer en moteur thermique. Là aussi, comme je vous l'ai dit, écologiquement, il va falloir aussi chercher des produits que nous n'avons pas en plus. Hein. Aujourd'hui en France, il faut donc aller chercher cela. Donc oui, il faut soutenir l'innovation. Il faut soutenir le numérique. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels moi j'ai travaillé beaucoup. On manque de start-up. On manque effectivement de soutien pour l'innovation et de la recherche. Effectivement, ça passera par aussi au niveau national, par des aides et effectivement par rapport aux régions qui obtiennent les fonds et aussi les aider à obtenir ces fonds. Puisque je vous l'ai dit, malheureusement, on dépend beaucoup de l'Union européenne pour obtenir ces fonds. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement identifier les secteurs aujourd'hui clés, donc agriculture, le tourisme, PME-TPE et l'innovation dans le numérique pour pouvoir effectivement les aider via les textes malheureusement de l'Union européenne qui ne les favorisent pas puisqu'effectivement et c'est ce que j'ai aussi vu sur le terrain. On les asphyxie de normes. Donc il faudrait aussi alléger les entreprises, surtout les petites entreprises, par rapport à, notamment, je vous donne un autre exemple sur le packaging, donc c'est packaging et recyclage d'emballage. Là aussi, il faut alléger les normes, parce qu'effectivement, on les envahit, ils n'arrivent plus, ils passent leur journée à monter des dossiers, ou en tout cas à répondre à des normes. Je l'ai vu le week-end dernier, quand j'ai fait une balade dans le Vaucluse, avec des viticulteurs. Ils ont beaucoup de vin à écouler, mais ils sont tellement contraints à répondre à des cahiers des charges, notamment pour l'étiquetage. Et moi aussi, je suis pour l'étiquetage, notamment l'étiquetage Made in France, produits locaux. Mais il faut les aider, il faut leur faire confiance et alléger toutes ces normes qui sont plus contraignantes qu'autre chose.
Nous sommes arrivés au bout de cet entretien par souci de respecter le même temps de parole à chaque liste. Merci Virginie Joron. Je le rappelle, vous représentez aujourd'hui la liste Identité et Démocratie portée par Jordan Bardella en tête de liste. Merci. À l'approche des élections européennes, la Maison de l'Europe en Mayenne nous offre une série de capsules rappelant différents points importants, nous permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de l'Union européenne, les différents champs d'action du Parlement européen et nous explique différentes mesures récentes. On écoute aujourd'hui Jacqueline Dalibar, coprésidente à la Maison de l'Europe en Mayenne.
Unis dans la diversité. Tout le monde aura bien sûr reconnu la devise de l'Europe, porteuse d'un enthousiasme incroyable et cependant si difficile ne serait-ce qu'à concevoir. C'est vrai, la diversité de l'Europe est multiple, linguistique, économique, culturelle, religieuse, politique, sociétale. Si l'on s'en tient à ce constat, le chantier paraît colossal. Et pourtant, c'est justement là que réside l'enthousiasme dont je parlais il y a quelques secondes. Nous avons la chance et l'opportunité de changer ensemble les paramètres de cette Europe sociale où les disparités sont criantes. Citons quelques thématiques. L'inclusion, le droit au travail, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits des enfants, etc., j'ai envie de vous dire. Durant le mandat 2019-2024, la Commission européenne a promu un grand nombre de mesures convergeant vers le haut des droits sociaux des Européens avec des objectifs ambitieux. 78% des 20-64 ans doivent avoir un emploi. 60% des adultes doivent partir en formation chaque année. Il y a une directive sur les salaires minimaux adéquats. Il a été souhaité une baisse d'au moins 15 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion, dont au moins 5 millions d'enfants. La garantie européenne pour l'enfance, accès à des crèches, à l'école, au moins un repas par jour, et des soins de santé gratuits. Dans le domaine de l'égalité homme-femme, citons en mai 2023 l'adoption de nouvelles règles, renforçant le principe à travail égal, salaire égal. Juin 2023, adhésion à la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et la liste serait encore longue. Oui, l'Europe travaille. Oui, l'Europe a mis en place un cadre bien défini, avec des directives précises et ciblées. Certes, certaines mesures seulement sont appliquées. Oui, le progrès dans le domaine social est en marche grâce à l'Europe, qui a considérablement renforcé la protection contre la discrimination dans l'ensemble de l'Union européenne. Comme je vous le disais, certes, certaines mesures sont appliquées, mais beaucoup reste à faire. Et oui, en particulier dans la transposition et la mise en œuvre de cette législation, là où des États membres n'assument pas leurs responsabilités. Mais les textes sont là, les objectifs sont clairement définis, et dans les 5 ans qui viennent, les progrès seront au rendez-vous. À chacun d'entre nous d'exercer son droit de vote et de faire entendre sa voix pour une Europe plus juste, plus équilibrée, plus protectrice des êtres humains, une Europe où l'on conjugue prospérité économique et protection sociale élevée. Rendez-vous le 9 juin.
L'agité continue dans quelques instants, mais tout de suite je vous invite un peu chez moi puisque je l'écoute en boucle, le dernier album de Beuvette. Mais ensuite, ensemble on n'en écoute qu'un seul extrait. J'ai choisi pour vous The Golden Age. Écoutez.
I've been sleeping for a
On peut le dire, on est sur une émission spéciale élections européennes. Aujourd'hui, on aborde différentes thématiques et justement, dans le contexte actuel international, on entend de plus en plus parler d'une potentielle défense européenne. On écoute tout de suite Michel Ferron, ancien président de la Maison de l'Europe en Mayenne et secrétaire général de la Fédération nationale des Maisons de l'Europe, nous donner son avis sur la question d'une Europe de la défense.
Les choses évoluent, mais on peut faire un constat qui, je pense, va peser très lourd dans le scrutin du 9 juin, à savoir que, compte tenu de la guerre russo-ukrainienne, un peu comme le Covid, l'Union européenne a été obligée de sortir de ses prérogatives, de son manque de compétences pour aller plus loin. Dans le domaine du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est une grande première. L'Union européenne a franchi la barre de la déclaration de principes généreuse et volontariste pour aborder enfin des questions concrètes d'armement, des blocages de fonds, qui laisse augurer, en effet, de la mise en place peut-être d'un véritable service de défense qui manque toujours, 75 ans après sa naissance, à l'Union européenne. Et c'est d'autant plus important que ça va sans doute peser très lourd dans la conscience des citoyens qui vont venir voter. Je pense que, confusément, les gens ont pris conscience que, dans le contexte géopolitique assez anxiogène, c'est pas suffisant, mais l'Union européenne a été à la hauteur, comme elle l'avait été pour la vaccination sur le Covid. Moi, je pense, et on est plusieurs à le penser, c'est que des petits signes pourraient être donnés. Il n'y a pas d'armée européenne, ce n'est pas demain la veille. On est plusieurs à s'interroger si le prochain ou la prochaine présidente de la Commission prévoyait la nomination d'un commissaire à la défense, ce serait déjà un premier signe tangible de quelque chose qui se concrétiserait. Ce serait le pas vers quelque chose d'autre. Et ça me paraît très important parce qu'on a bien un ministre des Affaires étrangères qui est peu connu. M. Josep Borrell, il est commissaire à ses problèmes de relations internationales. Donc je pense qu'il faut souhaiter, pour que l'Europe y gagne en crédibilité dans les conflits, il y en aura plein d'autres. On a, en même temps que l'Ukraine a été rattrapée par l'affaire de Gaza, on s'est aussi rendu compte que, sans ça et si loin, l'Union européenne a pris position. Mais des positions politiques. Donc, l'Europe doit au plus que jamais s'installer dans le concert des nations, comme on dit, comme une interlocutrice, un interlocuteur à part entière. Et je rappelle toujours un point d'histoire, parce qu'il a complètement oublié, la première fois qu'il a été question de l'Europe de la défense, c'était pas très longtemps après la guerre, les choses n'étaient pas mûres, c'était la guerre froide, c'est la fameuse CED, qui était un échec retentissant, dont la France était responsable. En deux mots, c'était donc une tentative de mise en place d'une commission, qui s'appelait donc Commission européenne de la défense, mais vous savez bien qu'avec les accords de la libération, il fallait éviter le réarmement de l'Allemagne. Donc on n'était pas mûrs. Et c'est quand même assez attristant que les Français aient pesé négativement au niveau du vote à l'Assemblée en 1954, je crois, c'était Mendès France qui était président du Conseil. Ce projet n'est pas passé parce que bon, il y avait la guerre froide, il y avait la guerre de Corée, et puis il y avait surtout cette pesanteur du contexte de la guerre qui était toujours très prégnant. Donc, je pense qu'il faut souhaiter, quand on est européen, franchir ce pas. Ça ne veut pas dire qu'il faille beaucoup l'utiliser parce que, après tout, s'il n'y avait pas de conflit, il ne faut pas rêver, il n'y aurait pas besoin de cette institution.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio. On est bien évidemment en direct. Dans quelques instants, c'est l'agenda culturel de la semaine. Mais avant cela, musique. On écoute Les Volcans d'April et de Doria D.
La vie est belle, tu t'ennuies déjà. Y a pas de mode, mode d'emploi. On est loin de savoir comment faire, tu le sais bien. Au premier jour, à nos adieux, dans le reflet du miroir, j'aperçois tes yeux. Et
pupilles tremblent quand je parle de nous. Tu pourras me méprendre devant ces la sentence. Ce soir je te cherche, je me noie dans la foule. Si le sort s'acharne,
on se retrouvera sur les volcans.
Et s'il faut verser quelques larmes,
on ira les déposer dans l'océan. Et si le sort s'acharne,
on se retrouvera sur les volcans.
Et s'il faut verser quelques larmes,
on ira les déposer dans l'océan.
Et ça y est, on commence l'agenda culturel de la semaine. On le commence à Sablé-sur-Sarthe avec la programmation du théâtre L'Entracte et la compagnie Première Intention. Ça se passe à Sablé-sur-Sarthe et ça se passe même plutôt chez vous. Aujourd'hui et jusqu'au 26 mai, il vous suffit d'appeler Allo Jonglage pour vous faire livrer gratuitement un menu jonglé. Et oui, la compagnie vient directement chez vous si vous êtes un habitant de Sablé-sur-Sarthe pour un temps rien que pour vous. C'est un moment de partage unique que vous proposent ces artistes qui s'adaptent à votre intérieur pour vous proposer un numéro de jonglage. Les réservations se font par téléphone, prenez note au 06 23 66 75 65 pardon, 70. Je répète 06 23 66 65 70. On continue maintenant à Château-Gontier. Je vous en ai déjà parlé cette semaine. C'était dans l'émission de mercredi. La Biennale d'art contemporain Gontier-Rama commence samedi à Château-Gontier. Ne manquez pas l'inauguration qui aura lieu sous forme de promenade dans la ville avec The Green Line Marching Band à deux horaires différents. 16h30, rendez-vous sur le parvis de la salle des fêtes et 19h15, place de la République. Si vous avez manqué l'émission ce mercredi, sachez qu'elle est bien évidemment disponible en podcast sur l'autreradio.fr. Allez, maintenant, on revient plutôt direction Laval avec le Théâtre de Laval et la Compagnie Les Arts. Vous avez sans doute remarqué ou aperçu ou vu la fameuse structure de l'Odyssée prenant forme ces derniers jours au Square de Boston. Eh bien, la mise en vie, c'est ce soir à 21h. Pour rappel, l'Odyssée, c'est un visage de 6 mètres de haut, fait de terre, de paille et d'acier qui a été monté sous forme de chantier participatif avec les habitants de Laval. Certains scolaires ont eux aussi pu y participer. Ce sont donc des centaines de visages moulés dans l'argile en novembre dans le hall du Théâtre de Laval qui vont jaillir de la bouche de cet énorme visage. C'est à la fois poétique, étrange et beau et ça se passe donc au Square de Boston. On reste toujours à Laval. Ce dimanche, ça y est, c'est le lancement du Festival des Trois Éléphants qui se déroule cette fois, cette année, sur une semaine. Tout le centre-ville de Laval s'anime et s'associe, commerçants, associations, pour vous proposer des moments musicaux, artistiques et conviviaux. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur le site des Trois Éléphants. C'était votre dernière agitée de la semaine. Merci à Virginie Véron, Jacqueline Dalibar et Michel Ferron. Ça ne s'arrête jamais sur l'autre radio. Ce soir, votre soirée commence à 19h avec Dance Hall Social Club, suivi à 20h de Tempus Fugit. Donc une soirée plutôt musicale pour commencer le week-end. On continue avec un coup d'œil sur la programmation du week-end. Samedi à 10h, c'est Instant Europe. À l'occasion de la tournée de la représentation de la Commission européenne en Mayenne, ils reçoivent Jessica Larsson, chef adjointe de la représentation. L'émission parlera des institutions de l'Union européenne, de démocratie, de fonds européens autour des projets soutenus en Mayenne et qui répondent à des objectifs de transition écologique notamment. À quelques jours du scrutin, c'est un rappel utile de ce que l'Union européenne est utile à notre quotidien. À 13h, vous écouterez Rock Dreams. Et attention, ça y est, nos émissions spéciales en direct des festivals ont bien commencé. À 15h30, ce samedi, l'autre radio sera en direct de la 22e édition du festival Les Mouillotins. On ne s'arrête pas là, puisque dimanche, à 13h, le studio de l'autre radio s'installe à Laval, dans le village des Trois Éléphants, pour une émission spéciale d'ouverture du festival. Les allumeurs de Réverbère clôturent ce week-end à 19h. Je crois que je ne peux que vous inciter à bien rester sur nos ondes ou à venir nous rencontrer directement sur ces deux festivals. Venez nous écouter sur place, pourquoi pas. Je vous dis à lundi, et l'agité du local n'a pas envie de rester enfermé non plus. Nous serons tout au long de la semaine en direct du village des Trois Éléphants. Et attention, le direct sera exceptionnellement pour cette semaine à 18h15. D'ici là, sortez, prenez vos billets pour soutenir les festivals locaux qui font vivre nos zones rurales ou dynamisent nos villes. Croisons les doigts pour qu'ils installent le soleil une bonne fois pour toutes, puisque personne ne peut dire le contraire. Nos festivals, finalement, nous font du bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.